Bonsoir Julien Aubert.
Bonsoir.
Ancien député Les Républicains, vice-président des Républicains. Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir. Bonsoir.
On va revenir sur l'intervention à Viry-Châtillon ce matin du Premier ministre. Viry-Châtillon, là où un adolescent de 15 ans est mort après avoir été tabassé au début du mois. Gabriel Attal veut un sursaut d'autorité face à cette violence qui s'exprime chez les jeunes. On écoute Gabriel Attal.
Nous avons besoin d'un vrai sursaut d'autorité. Ce sursaut d'autorité, c'est une réponse à l'incompréhension, la sidération. Oui, la sidération de nos concitoyens. C'est savoir reconnaître que si nous avons, je crois, profondément réussi à réarmer financièrement et matériellement nos forces de l'ordre, notre système judiciaire, et j'y reviendrai, nous ne sommes pas encore parvenus à inverser cette forme de spirale de l'affaissement de l'autorité. Je veux une école du civisme, de la règle commune, du respect de la règle, des droits et devoirs, et de la responsabilisation de tous.
Alors, parmi les pistes avancées, je vais faire un court résumé. Pour lutter contre l'oisiveté des jeunes, ces enfants seront accueillis à l'école en continu, les collégiens de 8h à 18h. Les élèves perturbateurs auront une mention fauteur de troubles dans leur dossier scolaire et notamment dans le dossier Parcoursup. Parmi les pistes évoquées, l'internat, des travaux d'intérêt général pour les parents délinquants, des amendes pour les parents qui ne répondent pas aux convocations du juge pour enfants. La piste également d'une comparution immédiate dès l'âge de 16 ans. Et peut-être même la fin de l'excuse de minorité. Peut-on y croire, Alain Duhamel ?
Bon, alors, s'il s'agit de dire qu'il y a une violence dans une partie de la jeunesse, je pense que personne ne dira le contraire. S'il s'agit de dire qu'il y a, dans l'ensemble de la société, un affaissement de l'autorité, là aussi, je crois que ça sera difficile de dire le contraire. Donc, je pense que, et j'insiste sur le mot que je veux utiliser, sur ce terrain, je pense qu'il est crédible. Je ne dirais pas la même chose s'il s'agissait du budget ou s'il s'agissait de l'immigration. Mais sur ce terrain-là, je pense qu'il est crédible. Je pense qu'il est crédible d'abord parce qu'il connaît vraiment le sujet. Quand il était ministre de l'Éducation nationale, il l'a montré. En plus, c'est quelque chose qui le passionne. Ensuite, parce que c'est un sujet, quand on entrait dans les détails de tout ce qu'il a raconté ce matin, que les Français vivent et ressentent profondément. Quand il parlait du père absent qui devra participer, par exemple, s'il y a une sanction ou s'il y a un financement ou s'il y a une amende, et pas simplement laisser la mère seule s'occuper de ce genre de choses, on voit bien que c'est ce que les Français vivent et ce qu'ils ont envie de voir changer. Et puis, il a fixé des échéances quand même particulièrement rapide sur ce qui doit se passer, puisqu'il y a concertation, qu'il doit y avoir un relevé de conclusion dans 8 semaines et qu'il y aura un point intermédiaire dans 4 semaines. Donc, on voit bien ce qui est son profil, c'est-à-dire il veut lui-même incarner une forme d'autorité et une forme de rapidité. Mais je répète, ce que je dis sur ce terrain-là qu'il connaît bien et que les Français ressentent et vivent, je ne le dirai pas sur n'importe quel terrain, évidemment.
Alors, on reste sur ce terrain. Peut-on y croire, Julien Aubert ?
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec Alain. D'abord, il n'est pas du tout crédible sur ce sujet-là, au même titre d'ailleurs que les finances publiques, parce qu'en réalité, il n'a rien à son bilan qui permettrait de rappeler qu'il aurait été efficace sur la question de l'autorité. Quant à son passage à l'éducation nationale, fort bref, il a effectivement fait la même chose, c'est-à-dire une succession de slogans, mais on n'a pas vu les actes. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs
La baïa, ce n'est pas un acte.
Pardon ?
La baïa, ce n'est pas un acte.
Oui, c'est une mesure symbolique.
Et il me semble me rappeler que dans notre débat, vous étiez plutôt pour.
Oui, non, mais j'y suis favorable. Mais enfin, pensez que le problème de l'éducation nationale se limite à la baïa, à quelques dizaines de cas. Oui, mais si vous voulez, la politique fonctionne malheureusement au symbole. Et aussi à la manipulation, parce que quand il dit 4 et 8 semaines, s'il a son calendrier aussi resserré, ce n'est pas parce qu'il y a urgence, c'est parce qu'il y a des élections européennes et qu'il a la tête sur le billot. Je referme la parenthèse. Ensuite, ce n'est pas la première fois qu'il sonne le tocsin. Je vous rappelle que le 10 janvier, il ne concevait pas de société sans ordre et sans règles. Le 30 janvier, il annonçait qu'il devait faire respecter l'autorité partout, dans les classes, les familles et les rues. Le 21 mars, il parlait d'un enjeu absolument majeur, de nettoyer ses trottoirs aux abords des établissements scolaires. Le 18 avril, il fait donc un discours sur l'autorité au cœur de la République. Et malheureusement, pendant ce temps-là, tous les jours, une attaque au couteau. D'ailleurs, le symbole, il fait un discours à Viry-Châtillon pour rappeler le dernier mort au couteau. Le même jour, eh bien, on s'aperçoit que son discours aurait dû être délocalisé en Alsace, où ce sont des fillettes qui auront été attaquées. Et donc, je termine sur ça, c'est que malheureusement, il y a une divergence totale entre cette succession de phrases qui sont parfaitement ciblées, mais qui sont en réalité l'inverse de ce que les Français vivent tous les jours. Ce que les Français vivent tous les jours, c'est l'inverse de ce que dit M. Attal, une société sans ordre et sans règles, où on ne fait respecter l'autorité nulle part, dans les classes, dans les familles ou dans les rues, on casse, on ne répare pas, on salit, on nettoie rien, on défie l'autorité, personne ne vous apprend à la respecter, on tolère ce qui est inacceptable, et on admet, sans chercher justement à protéger les Français de ces atteintes à la sérénité.
C'est amusant parce qu'on a entendu le même discours, mais on n'a pas compris les mêmes mots. Quand vous citiez toute une série de déclarations allant dans le même sens, ben, vous pouvez quand même pas, sur un sujet qui est un sujet sérieux quand même, la violence d'une partie de la jeunesse, franchement, c'est pas un sujet sur lequel on a envie de plaisanter. Bon, et quand il s'agit de proposer toute une série de mesures pour y faire face et insister sur la nécessité de l'autorité, d'abord, je vous vois mal contester le principe de la nécessité de l'autorité.
Pas du tout.
Bah oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Je vous vois mal le faire. Mais vous pouvez pas non plus lui reprocher. Vous dites, il disait déjà telle chose à tel moment, il y a 3 mois, il y a 6 mois. Bah, heureusement, s'il disait le contraire de ce qu'il expliquait il y a 3 mois ou à 6 mois, vous diriez, il n'y a pas de continuité, il n'est pas sérieux, il change d'avis tout le temps.
Expliquez-moi pourquoi il a attendu le 18 avril pour présenter ce programme, la question de l'internat, la question de la protection des établissements scolaires, ne me dites pas qu'il l'a découvert.
D'abord, vous avez bonne mémoire, donc ne faites pas semblant d'être oublieux. Dès le discours de politique générale, ce sont exactement des thèmes qu'il avait commencé à souligner. Je ne l'invente pas.
Mais sans mesure.
Ah non, avec des formules choc.
Enfin. Mais les formules.
Les Français s'en fichent, la formule.
Les Français s'en fichent.
C'est du sous-sarkozisme.
La question est de savoir si ça correspond à un problème que les Français vivent. La réponse est oui. C'est un problème que les Français vivent. À partir de ce moment-là, s'il en fait un angle, s'il en fait même d'une certaine manière sa spécificité, et si aujourd'hui il dit des choses cohérentes à ce qu'il a expliqué quand il a fait son discours de politique générale en s'installant, on ne va pas lui reprocher quand même de continuer à penser la même chose 3 mois après, puisque c'est 3 mois après.
C'est pas ce que je veux dire.
Et en 3 mois, on ne peut pas dire non plus, un, que rien n'a été fait, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, et deux, que tout n'est pas métamorphosé, évidemment, en trois mois, on ne remonte pas, on ne remonte pas 40 ans de déliquescence successive. Bah,
je voudrais vous rappeler quand même que Emmanuel Macron n'a pas été élu il y a 3 mois.
Je vous parle d'Attal.
Qu'il le veuille ou pas, Gabriel Attal, qui a été d'ailleurs un des artisans de la victoire d'Emmanuel Macron, hérite d'une situation sécuritaire et notamment d'un bilan qui court depuis 7 ans.
Mais non. Deuxièmement, moi, depuis longtemps.
Bah, attendez. Emmanuel Macron, lui, peut agir depuis 7 ans. Oui. C'est au bout de 7 ans de mandat présidentiel que nous avons des mesures. Mesures qui, d'ailleurs, sont réclamées par la droite depuis un certain nombre d'années. Donc, moi, je ne critique pas, si vous voulez, le fond des mesures, même si, à mon avis, il manque des éléments importants. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler.
Lesquels, par exemple ? Allons-y.
Le fait culturel. Il y a quelque chose qui est totalement absent. Moi, quand je vois ces agressions à Bordeaux, l'agression qui s'est produite également dans un train à Strasbourg, ce sont généralement des étrangers. Donc, il y a parfois une dimension religieuse. On nous dit que ce ne sont pas des attentats terroristes.
Des déséquilibrés aussi.
Oui, alors moi, je trouve qu'il y a beaucoup de
déséquilibrés. On a même parlé parfois de police des mœurs. Oui. C'est-à-dire qu'on tabasse une jeune fille ou un garçon parce qu'il n'est pas habillé comme il faudrait.
Ce problème d'appréhension qui mériterait d'ailleurs plus qu'un débat de 10 minutes, mais comment est-ce qu'on appréhende le fait qu'il y a une forme de diffusion d'une culture qui n'est pas la nôtre, qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale.
C'est quoi cette culture ? Elle vient d'où ?
Elle vient des pays maghrébins, des pays arabes, principalement, oui, et d'Afrique.
Pardon, vous croyez que dans les rues d'Alger, à mon avis, il y a sans doute moins de fêtes délinquantes dans les rues d'Alger que dans nos rues.
Je pense qu'on est plus en sécurité dans les rues d'Alger que dans les rues de Paris. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient tabasser...
C'est peut-être plus une question de fermeté.
Si je peux intervenir...
Oui.
Merci.
Faites comme chez vous, Emmanuel.
J'essaye, mais ce n'est pas toujours facile, notamment avec vous. On était parti sur Attal fait un discours ce matin. Il avait fait un discours de politique générale il y a 3 mois. Est-ce que il va dans une bonne direction ou une mauvaise? On peut penser ce qu'on veut, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Il parle.
Maintenant, vous me répondez, oui, mais depuis 2017, Attal, on le juge sur ce qu'il fait depuis qu'il a cette responsabilité.
Ça fait 100 jours qu'il est là.
Et justement, il va pas métamorphoser la France brusquement d'un coup de baguette magique. Mmh. Le tout est déjà que ils disent les choses.
C'est bien courageux de dire les choses.
Oui, parce que il est arrivé assez souvent qu'on ne les dise pas sous des présidences successives.
Et quand
vous disiez, parce que vous, c'est vous qui remontiez avant, quand vous disiez d'autres ont fait autre chose, etc., il n'y a pas de président qui ait trouvé de solution idéale à la question de la violence dans la société.
Il y a deux choses quand même qui chiffonnent un peu.
Vous avez raison d'aller un peu à son secours parce que...
Par rapport à ce que dit Julien Aubert, il y a deux choses quand même qui peuvent un peu chiffonner. Les deux propositions qu'on retient les plus spectaculaires, c'est la comparution immédiate dès l'âge de 16 ans au lieu de 18 ans et peut-être la fin de l'excuse de minorité.
À l'hypothèse de.
Oui. Bon, ça c'est deux mesures qui sont dans le programme du Rassemblement national.
Oui.
Bon.
Et des Républicains.
Oui. Enfin, du Rassemblement national.
Et des Républicains.
Qui aujourd'hui le parti en tête de tous les sondages.
Robert, c'est...
Mais moi j'y suis favorable.
Mais je dis pas le contraire.
Mais simplement.
Donc en fait, il donne raison à ses adversaires, Gabriel Attal.
Mais alors à ce moment-là. Vous considérez que quand il y a une situation comme celle qui existe en France, qui est une situation qui, à ma génération, était inimaginable, bon, avec une inquiétude générale, avec des débordements qu'on ne connaissait pas, que dans ces cas-là, il y ait un certain nombre de solutions qui finissent à s'imposer, même si ceux qui la mettent en œuvre sont originaires de la gauche et que ces mesures-là relèvent traditionnellement des programmes de la droite.
Enfin, Maître Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux est contre ces mesures, par exemple.
Quand il y a une situation difficile, c'est plus intelligent de prendre des mesures efficaces, même si elles viennent de vos adversaires, que de ne pas les prendre dans l'idéologie.
Mais Éric Dupond-Moretti était contre la fin de l'excuse de minorité.
Non, mais je le sais bien.
Donc il y a même il met en porte-à-faux son garde des Sceaux.
C'est normal que des gens qui viennent de la gauche et quelquefois, et même souvent, du mal à utiliser des solutions qui sont à l'origine celles de leurs adversaires. Mais je vous répète, et ça me paraît du bon sens, que puisque la société a évolué, ça n'est pas absurde que ceux qui sont au pouvoir, même s'ils viennent de la gauche,
se droitisent.
Utilisent les recettes de la droite si c'est ce qu'il faut.
Mais est-ce qu'on est sûr qu'il ira jusqu'au bout? C'est
autre chose.
Non, mais parce que on est en campagne électorale, on reprend des propositions proposées en gros par Jordan Bardella, qui est en tête des sondages. Est-ce qu'après le 9 juin, ces propositions seront toujours sur la table, sachant que certains disent qu'elles sont peut-être inconstitutionnelles?
Il y en a forcément, ça c'est un débat.
Ça fait penser un peu au débat sur l'immigration. Oui. On a mis beaucoup sur la table des choses très dures, et finalement, c'était un projet plus light.
J'ai écouté attentivement.
Après, il va se plaindre d'avoir débatteurs.
Hein. Attendez, j'ai
piqué mon job, là.
J'ai écouté attentivement le discours. Il y avait énormément de mesures, j'en ai compté une trentaine. Dans ces mesures-là, il y en a forcément qui vont faire polémique. Et en particulier, dans le camp des macronistes, évidemment. Ceux qui viennent de la gauche, c'est évident qu'ils vont être malheureux et qu'ils vont se poser des questions.
Je crois que vous avez rattrapé votre temps de parole.
Parce
que là, ça fait au moins 5 minutes que je parle pas.
Julien Aubert.
Je signale que je réponds.
Mais c'est pas ma faute.
Pardon, c'est moi qui ai posé une question.
Je suis obligé de répondre à
deux. Je sais.
Ah bah oui, c'est un contre deux.
Écoutez, premièrement, qu'il soit cohérent avec lui-même, c'est quand même le minimum. Ce que je lui reproche, c'est de faire beaucoup de publicité et d'avoir un calendrier qui est en réalité orienté sur les élections européennes et pas sur les problèmes des Français. S'il s'agissait de résoudre les problèmes des Français, il s'y serait pris plus tôt. Et effectivement, il est quand même, je dirais, quelque part co-responsable de la situation, parce que Emmanuel Macron, jusqu'ici, sur l'éducation nationale comme sur la justice, a mis en place des gens qui ne partageaient pas du tout ces options et avec des phénomènes du en même temps qui nous ont conduits à la situation actuelle. Il n'est pas responsable de tout, mais quand on est aux affaires, on est quand même le premier responsable. Deuxièmement, dans la manière d'aborder les choses, ce que je ne supporte pas, moi, vous savez que je suis pour le peuple français est le dernier mot, donc je suis pour la révision des constitutions, je pense que les juges ne devraient pas interdire au peuple français les règles dont ils souhaitent se fixer.
Alors Olivier normalement devrait intervenir en vous disant oui mais c'est ce que dit le Rassemblement national depuis plus longtemps que vous.
Mais j'étais souverainiste avant le Rassemblement national.
Ce que je pourrais dire c'est quand vous êtes au pouvoir.
Ils le sont plus d'ailleurs.
Non mais quand vous êtes au pouvoir vous le faites pas, c'est souvent ce qu'on reproche à la droite. Vos amis.
Bah non mais vous avez plusieurs droites. En tout cas, la droite souverainiste, elle a rarement été au pouvoir.
En tout cas, de même que vous disiez que Attal est responsable de tout ce qui se passait avant, vous êtes responsable de ce que vos amis ont fait au pouvoir. C'est le même raisonnement.
Non, il y a une différence. J'aurais été ministre de Nicolas Sarkozy ou conseiller de Nicolas Sarkozy, que vous me reprochiez ceci, je veux bien. Moi, j'ai commencé ma vie politique en 2012. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé avant, 2012, ce qui s'est passé avant, si vous voulez, je me sens moins responsable que Gabriel Attal, qui était l'artisan de la victoire d'Emmanuel Macron.
Donc, vous êtes en train de faire un droit d'inventaire.
Non, mais voilà. Ensuite, sur le fond, il ne prend pas en compte le facteur culturel. À un moment donné, il y a aussi des choses qu'il faut dire sur les familles monoparentales.
Mais il en a parlé ce matin.
Non, il a proposé des solutions. Mais il faut aller au bout des choses.
Il veut impliquer les terres davantage.
Je sais qu'il en a parlé. Non seulement il en a parlé, mais il a proposé des solutions.
Oui.
Bon, alors vous pouvez pas lui... Bah, c'est le sujet du débat. Vous pouvez pas à la fois le dire co-responsable de tout ce qui existe depuis 2017 et en même temps être sceptique sur ce qu'il dit ce matin pour le faire dans deux semaines, écoutez.
Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, pour protéger la famille? Puisque aujourd'hui, vous avez l'explosion des familles monoparentales, d'accord?
Ben oui.
Moi, je n'entends pas un discours...
C'est pas de la faute de Gabriel Attal,
non,
ça,
mais je n'entends pas un discours gouvernemental qui est favorable
à des
familles avec un papa et une maman, par exemple. Moi, j'entends parler des familles... Mais on ne peut pas souligner la diversité des familles quand cette diversité conduit à avoir des mamans solo.
Non, mais quand on s'aperçoit que parmi les enfants qui tournent mal et les adolescents qui sont violents, donc... qui pose des problèmes, il y a effectivement un pourcentage important de familles monoparentales. Une des réponses qu'il donne, c'est que dans ce cas-là, il faut prendre des mesures juridiques, voire législatives, pour que soit mis en cause, non pas la mère qui fait souvent ce qu'elle peut, qui travaille très souvent dans des conditions difficiles et qui a en plus le poids de l'éducation des enfants, et celui qui affiche le camp et qui ne s'occupe plus de rien.
C'est
intelligent, qu'est-ce que vous voulez ?
Il faudra m'expliquer comment vous pouvez fermer des postes de fonctionnaires et expliquer qu'on va renforcer la justice, renforcer l'éducation nationale et renforcer les services publics.
Et la prochaine fois, vous me direz quel poste de fonctionnaire vous voulez supprimer.
Mais moi, je ne veux pas supprimer
le débat.
Moi, je
veux
le service public.
Pourquoi pas la semaine prochaine, on verra. Merci Alain, merci Julien Aubert.